Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors Rav Lemel, on poursuit notre étude de la paracha, de ce passage qu'on lit dans nos communautés chaque semaine, et on arrive à Matot Massé, deux parachutes qui se lisent ensemble, en tout cas cette année, et c'est là qu'on trouve l'enseignement sur ce qu'on appelle les villes de refuge. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un tue par inadvertance, homicide involontaire, comme on dit, eh bien, la Torah demande à ce qu'il soit dirigé vers une ville de refuge. Et il ne peut en sortir qu'avec la mort du Kohen Gadol. Et ça pose une question considérable à laquelle vous nous invitez de réfléchir ce soir. Parce que, quel rapport ? Il ne peut en sortir que, par exemple, je ne sais pas, il y aurait des choses où on aurait dit ben, « c'est lié ». Par exemple, la restitution de je ne sais pas quoi à la famille de sa victime. Là, on comprendrait, c'est lié. Mais pourquoi il ne peut sortir de la ville de refuge que si le Kohen Gadol, le grand prêtre, meurt? Et ça pose la question de la responsabilité, parce que le Kohen, le prêtre, il est responsable de rien du tout dans cette histoire. Et c'est sur ça que vous voulez réfléchir avec nous ce soir, Rav Lemel.
Exact. C'est vrai que parachat Matot Massé sont des parachutes qui sont extrêmement riches, mais en effet, dans la parachat Massé, on va évoquer donc eh bien ce problème de celui qui a tué Bishgaga, c'est-à-dire par inadvertance. Alors évidemment, le Talmud dans le traité de Makot, plus particulièrement, va nous dire exactement c'est quoi tuer quelqu'un par inadvertance. Il est en train de monter sur une échelle, il descend de l'échelle, il tombe, ou il y a un objet qui tombe. En tout état de cause, cette personne n'a pas du tout eu l'intention de tuer, évidemment. La Torah nous dit qu'il va devoir partir dans ce qu'on appelle une ville de refuge. Et d'ailleurs, dans cette ville de refuge, il restera « ad mot kohen agadol », dit le verset, jusqu'à la mort du grand prêtre. Ça veut dire que s'il arrivait dans la ville du refuge mardi et que le grand prêtre meurt mercredi, ben, il sort. Mais si ça se passe 15 ans après, bien, il reste là-bas 15 ans. Et évidemment, le texte nous dit que d'aucune manière, la famille de la victime pourrait venir et tenter de faire quoi que ce soit comme forme de vengeance par rapport à cette personne. Évidemment, s'il ne va pas dans cette ville de refuge et que la famille de la victime cherche à venger, alors dans ce cas-là, la loi sera légèrement différente. On se posera la question de savoir si en effet ils sont coupables de s'être vengés ou pas. Ça pose une problématique en tant que telle d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est, comme vous dites, quel est le rapport qu'a le Kohen Gadol. Alors, pour rentrer là-dedans, eh bien, on va ouvrir un texte du Talmud qui nous dit la chose suivante, que « Imotem shel kohanim gdolim », c'est-à-dire les mamans des grands prêtres, donc la maman du grand prêtre avait l'habitude de faire en telle sorte d'améliorer, j'ai envie de dire, le quotidien de ces personnes qui étaient dans les villes de refuge, qui au passage étaient là-bas, vivaient, fonctionnaient normalement, si ce n'est qu'ils ne pouvaient pas sortir de la ville, si ce n'est à leur risque et péril. Et on dit bah, elles faisaient tout, pourquoi bah, parce qu'elles avaient très peur bah, que les personnes qui sont dans la ville de refuge prient très fort pour que le grand prêtre meure le plus vite possible, puisque le jour où il meurt, ben, on rentre à la maison et c'est terminé. Et alors elle se dit, bon, ben, on va faire en telle sorte qu'il ne prie pas. Le Talmud pose une question et ramène un verset et dit, mais qui le latrinam l'otavo ? Mais quelqu'un qui maudirait une personne sans aucune raison. Évidemment, ça ne peut pas arriver. Alors bien sûr, quel est le rapport ? Ils sont en train de maudire le grand prêtre, qu'il meurt rapidement, ben, qu'il parle. De toute façon, leur parole ne peut avoir strictement aucun impact, vu qu'il n'a pas de responsabilité là-dedans. Et la réponse du Talmud est bouleversante et dit si, bien sûr. Il aurait dû prier pour sa génération et ne l'a pas fait, ou en tout cas n'a pas fait suffisamment. Traduction, eh bien, si une histoire pareille s'est passée, même si ça s'est passé par inadvertance, c'est que le niveau spirituel de la génération permettait à ce qu'un événement de ce type puisse exister. On rentre ici dans quelque chose d'extrêmement fin, c'est-à-dire le principe de la responsabilité qu'a la génération par rapport à tous les membres de cette génération. Or, comme le Kohen Gadol, le grand prêtre, est celui qui est censé élever le niveau, il faut croire que la génération a un niveau spirituel pas très élevé qui fait qu'une histoire pareille peut se passer. Et alors, pour mieux comprendre ça, on va, si vous le voulez bien, faire un détour par le livre de Josué. Vous savez que lorsque le peuple d'Israël pénètre la terre d'Israël pour la conquérir, comme Dieu leur a demandé, eh bien, il y a un engagement que Dieu prend par rapport au peuple d'Israël, que Moïse leur transmet, que tout se passera bien. Mais ça ne va pas se passer si bien que ça, puisque dans la conquête d'une ville qui s'appelle la ville de Haï, il va y avoir des morts. Et là, évidemment, c'est très bouleversant parce que ça ne devait pas se passer comme ça. Et lorsque Josué, puisque maintenant c'est lui qui dirige le peuple, se tourne vers le créateur de l'univers et lui dit « Mais comment c'est possible ?» La réponse qu'il reçoit à travers ce que l'on appelle les Urim Vetumim, c'est-à-dire à travers le pectoral du grand prêtre. Vous savez que le grand prêtre avait un pectoral avec 12 pierres précieuses qui étaient enchâssées dessus, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et dans certaines circonstances, eh bien, si on interrogeait, ces bières s'illuminaient dans un certain ordre et on pouvait décrypter en effet une réponse. Je ne rentrerai pas dans le détail comment ça se passait en tout état de cause. Josué demande, et puis la réponse est « Hatou Israël ginvu, ganvu vegam kershu ». Le peuple d'Israël ont fauté, ils ont volé, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Alors, on commence une enquête, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, dans la conquête d'Israël, on ne peut pas prendre de butin, c'est pas possible, c'est interdit. Et on réalise qu'il y a un homme qui s'appelle Achan, eh bien, qui a désobéi à l'ordre et qui, dans la conquête, a pris du butin. Alors, évidemment, tout de suite, on s'arrête, mais la réponse est un pluriel. Il y a marqué « ils ont fauté, ils ont volé », mais non, ce n'est qu'un seul homme. Et nos maîtres de dire, et Rav Dessler développe très longuement cette idée, eh bien oui, le peuple d'Israël a une responsabilité collective. Si tant est qu'une personne ait pu commettre une chose pareille, c'est que le niveau spirituel de la génération a laissé cette possibilité-là. Et vous savez qu'on a ici un élément qui est au fond fondamental dans le principe de responsabilité, c'est-à-dire que lorsqu'il se passe quelque chose, on ne peut pas dire « bon, ben, c'est leur problème à eux, nous on n'a rien à voir avec cette histoire ». Si le niveau spirituel d'une génération est élevé, eh bien, il y a comme une forme d'élément qui bloque la possibilité que des événements de ce type puissent exister, comme s'il y avait une forme de protection spirituelle, et plus que cela, le niveau spirituel fait qu'il y a des choses qui ne s'inscrivent plus dans le monde des possibles. Alors, je vais essayer de retraduire ça sur des choses très simples. Vous savez, essayez d'imaginer quelqu'un qui va fréquenter pendant un mois, deux mois, un groupe de personnes. Et j'ai utilisé un terme un peu, enfin voilà, je veux dire, voilà, bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, c'est sûrement des personnes très bien par ailleurs, mais quand je dis bas de gamme, c'est peut-être dans leur manière de parler, leur manière de s'exprimer, un peu légère. Hein. Vous savez que le Talmud, dans le traité de Psachim, relève le fait que la Torah nous demande d'avoir un langage élégant, peut-être pas des précieuses ridicules, mais en tout cas un langage qui ne soit pas ce que j'appellerais un langage bas de gamme, un langage un peu ordurier, grossier. Et d'ailleurs le Talmud là-bas nous fait remarquer, nous dit qu'on voit que la première fois où la Torah aurait dû employer le mot impur, ben, elle ne dira pas impur, elle dira qui n'est pas pur, même si par la suite on le dira, mais la première fois on ne le dit pas. Pourquoi ? Pour montrer qu'au fond, eh bien, il faut avoir une certaine forme d'élégance dans le langage. Imaginez quelqu'un qui fréquente un milieu dans lequel, malheureusement, on n'a pas encore appris l'importance du langage. Eh bien, il risque de se retrouver 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, à tout simplement parler comme eux, parce que tout simplement, il y a eu un impact du groupe. Lorsque vous êtes dans un univers dans lequel, eh bien, on voit les choses de manière petite, eh bien, on a tendance à les voir soi aussi de manière petite. Un univers dans lequel on considère que l'argent est au cœur de tout, eh bien, au bout d'un moment, on fonctionne de cette manière. Un univers dans lequel on a un certain mépris pour certaines personnes, eh bien, au bout d'un moment, fonctionne de cette manière sans s'en rendre compte parce que tout simplement, le niveau spirituel, eh bien, nous impacte. Et on a ici, donc, évidemment, une leçon formidable, c'est que si la Torah nous dit que le Kohen Gadol, le grand prêtre, a une responsabilité chez Ayalolid Palais, il aurait dû prier, ça veut dire que, eh bien, pour nous, on doit savoir qu'on peut, en effet, faire en telle sorte d'impacter les univers dans lesquels on se trouve en décidant justement, et je vais utiliser les mêmes principes de termes, en décidant de jouer haut de gamme. Si pour nous, on décide dans notre tête que certaines choses deviennent impossibles, eh bien, alors peut-être que dans les univers dans lesquels on se trouve, ces choses-là deviendront impossibles et ne s'exprimeront pas, ne seront pas présentes. Au fond, on ouvre ici à des concepts fondamentaux qu'on trouve d'ailleurs dans l'univers de la Kabbale, qui sont qu'il y a des énergies spirituelles qui sont là et qui en effet vont avoir un retentissement positif ou malheureusement parfois négatif sur le monde dans lequel nous sommes. On ne peut pas à un moment décorréler les choses et c'est la raison pour laquelle nos maîtres s'interpellaient toujours lorsqu'ils voyaient ce qui se jouait dans une génération. Ils se disaient, mais nous-mêmes, est-ce qu'on fait véritablement ce que l'on doit faire? Est-ce que nous-mêmes, nous ne devons pas nous améliorer pour que des choses pareilles ne puissent pas exister, en tout cas qu'elles ne s'inscrivent pas dans un monde des possibles? Alors, évidemment, ça nous ouvre à une réflexion personnelle, parce qu'on commence d'abord à être dans nos microcosmes communautaires, et puis après, il faut être ça, il faut vivre ça de manière beaucoup plus vaste à l'intérieur du monde dans lequel on se trouve. Évidemment, il serait extrêmement dangereux de vouloir s'imaginer que dès qu'un événement a lieu, alors nous en avons une responsabilité directe, parce que ça serait quelque chose qui pourrait générer une forme d'anxiété, voire même des systèmes de culpabilité ou de culpabilisation et donc d'enfermement. J'ai envie plutôt de réfléchir dans ce qu'il peut y avoir de positif, c'est-à-dire plus on décide d'être grand, eh bien, plus on peut faire en telle sorte que les univers dans lesquels on se trouve, eux aussi grandissent et qu'ils soient plus élevés, plus grands, plus raffinés et surtout peut-être, et particulièrement à notre époque, peut-être plus spirituels.
Beau programme. On a vu déjà beaucoup se sont sentis mobilisés pour justement essayer comme ça d'avoir des valeurs collectives qui... depuis le 7 octobre, nous permettent de faire quelque chose de plus grand qu'auparavant. Et c'est très important ce que vous nous avez dit ce soir. Donc on va essayer de réfléchir, savoir qu'il n'y a pas il n'y a pas de petites choses, mais surtout ces valeurs collectives qui font qu'ensemble, nos sociétés sont plus belles ou moins belles. Et c'est très très important. Merci Hervé Lemel et Shabbat Shalom.
Merci à vous et Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom Rav Mordechai. Alors, notre réflexion de ce soir sur Matot Massé concerne les deux, notamment les deux tribus qui ne sont pas rentrées en Israël. Qui ont demandé à Moshe, ils ont dit, nous, ça nous plaît bien ici. Et on veut rester pas en terre d'Israël telle que définie par le projet divin. Alors, ça pose quand même des questions absolument incroyables. D'abord, déjà, d'où tu n'as pas envie d'entrer, alors que tu sais, tout le monde est tendu vers ça. Et puis surtout, c'est quand même la suite d'une paracha qu'on a tous lu, qui est Shlach Lecha, où les gens n'ont pas voulu rentrer, et où ça s'est terminé par une punition qui, vous nous avez dit, vous les rabbanim, et particulièrement vous, Rav Mordechai, et nous a amené à une punition qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et eux, tranquillement, ils disent, non, mais nous, on ne veut pas rentrer. Alors ?
Alors, j'ajouterai encore plus, c'est que finalement, Moshe Rabbeinu n'essaye même pas, il en fait des reproches, mais après, il n'essaye même pas de leur parler gentiment, tranquillement. La terre d'Israël, moi-même, plus tard, je vais faire 515 prières pour y rentrer. Moi-même, j'aurais été prêt à n'importe quoi pour y entrer. Et plus que cela, et tout celui qui quitte Eretz Israël, qui habite en Eretz Israël, qui quitte Israël, c'est comme s'il allait servir des idoles. Ce que dit la Gemara dans Ketuvot. Donc on voit que Moshe Rabbeinu leur fait des reproches, mais malgré tout, il ne va pas continuer après à essayer de les persuader, et mieux, il va traiter avec eux, puis il va arranger finalement le projet. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a deux tribus qui sont venues, c'est les Bnei Gad et les Bnei Reuven, donc tribu de Gad, tribu de Reuven. Mais la demi-tribu de Ménaché, celle-là, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a demandé d'aller avec eux. Alors là, c'est encore plus terrible. Là, ce n'est pas les tribus qui demandent à pas rentrer en Israël, c'est carrément Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, qui dit à une demi-tribu, vous allez les accompagner là-bas. Alors, la seule manière de comprendre ça, comme d'habitude, c'est de se référer au Bikoubalim, aux kabbalistes. Et les kabbalistes nous disent la chose suivante dans le livre Shahar Apsukim, c'est rapporté au nom du Harizal, au nom du maître de la Kabbalah. Il va dire une réponse, je pense que vous ne l'avez jamais entendu, en tout cas que moi je l'ai entendu, c'était la première fois de ma vie. Vous me direz si vous l'avez déjà entendu, mais moi je n'avais jamais entendu ça et c'est absolument extraordinaire. Il dit que lorsque Yaakov, la première nuit, lorsqu'il était avec Léa, il pensait qu'il était avec Rachel. Et comme Yaakov était un prophète, il imaginait qu'en ce moment-là, il était en train de concevoir un fils qui allait être Yosef. Et finalement, c'est Réhouven qui va sortir. Et étant donné que Réhouven n'était pas dans les pensées de Yaakov, le fondateur du peuple juif, qui va bâtir à ce moment-là le peuple qui va descendre en Égypte, mais qui recevra la Torah et qui rentrera en Eretz Israël, comme il n'est pas dans ses pensées à ce moment-là, eh bien figurez-vous qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël, ses enfants ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Je vois votre étonnement d'ici là, à 3200 km à vol d'oiseau, et je poursuis avec Gad. Gad, c'est le fils de Zilpa. Donc une des servantes de Yaakov, et Zilpa a été donnée à Yaakov sans aucune prise de conseil chez Yaakov. Ça a été fait en secret, comme c'est marqué dans le verset, Vatikar Vatiten. Et donc là encore, quand Yaakov conçoit Gad, en fait, il est sur une autre dimension, comme si quelque chose, les choses ne lui avaient pas été dites. Alors, il faut bien comprendre que les Avot vivaient un niveau de tzniut qui n'est pas le nôtre, tu ne connaissais pas, mais il y a ici quelque chose de très profond qui nous est enseigné, on va y revenir. Et pour la tribu de Ménaché, pour la demi-tribu de Ménaché, on va le voir après. Donc là, ici, on a déjà une première chose, un premier élément, nous disent les kabbalistes, qui est que Yaakov, le fondateur du peuple juif, au moment où il est dans le moment d'intimité avec ses épouses, est pris de court, en quelque sorte, par ce qui se passe au niveau de ses épouses. Et donc, il pense concevoir des enfants, mais en fait, il se passe autre chose. Et donc, comme sa pensée créatrice, parce que la pensée est créatrice, et particulièrement celle d'un prophète, eh bien, ne se pose pas sur ces individus, ils ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Alors, Moshe Rabbeinu connaissait ce secret, nous disent les kabbalistes, il connaissait ce secret. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, il ne va pas insister. Ça répond à la question de savoir pourquoi il n'insiste pas. Il n'insiste pas parce qu'il connaît ce secret. Et il sait qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a organisé les choses de telle manière que les Bnegad et Bnerouven soient très riches, soient grandement récompensés pour leur participation à la guerre contre Sichon et Og, qu'ils aient beaucoup de troupeaux, et donc qu'ils ne rentrent pas en Eretz Israël. Parce qu'il y a une autre question, pourquoi ne pas rentrer en Eretz Israël parce qu'ils ont beaucoup de troupeaux? Ben non, au contraire, en Eretz Israël, il y a des pâturages. Alors, une des réponses qui est donnée, cette fois-ci dans la Gemara, c'est qu'en fait, Réhouven était très, 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 très pointilleux sur le vol. Et vous savez qu'il y a un interdit en Eretz Israël, enfin, il y avait un interdit d'élever du petit bétail. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que le petit bétail aille paître dans les troupeaux, dans les champs des voisins, et donc il y a risque de vol. Et c'est la raison pour laquelle il y a tout un sujet dans la Gemara pour savoir si on a le droit d'élever du petit bétail en Israël. Aujourd'hui, on a le droit, mais il faut que ça soit dans des conditions très précises. Pourquoi? Parce qu'on craint le vol. Et Réhouven, qui était le digne fils de Yaakov, voulait faire très attention et Gad également au vol. Ça, c'est la réponse qui est donnée par la Gemara. En tout cas, on a ici un enseignement qui est un enseignement très profond. Et cet enseignement nous dit en fait la chose suivante. Je pense que c'est ça qu'il faut en tirer, c'est un enseignement qui est profond, mais ce qu'il vient de dire, c'est la chose suivante. C'est que finalement, tous nos actes, toutes nos pensées ont des conséquences. Parce que ce qu'on nous enseigne ici au nom de Yaakov Avinu, c'est valable pour nous aujourd'hui. Nos actes et nos pensées ont des conséquences. Nous avons, par nos actes et nos pensées, notamment dans la manière dont nous nous conduisons dans l'intimité, eh bien nous avons toute une série de conséquences qui vont découler. La pensée est créatrice, elle crée des choses. Et d'ailleurs, le Rabban Nachmanide le rappelle dans Igorot Kodesh, que la pensée d'un individu, eh bien cette pensée est créatrice, notamment quand il s'agit d'intimité. C'est-à-dire le très haut niveau de sainteté de nos pères, mais aussi le niveau de sainteté qui est exigé. Et quand on parle de sainteté ici, là, c'est une sainteté courante, en quelque sorte, qu'on garde nos yeux et qu'on garde nos pensées dans les moments d'intimité. Concernant la demi-tribu de Ménaché, alors là, les choses sont plus simples. La Gemara dans Psachim dit qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle les zougotes. C'est-à-dire que les nombres pairs, ce sont des nombres qui peuvent attirer en quelque sorte des mauvais décrets. Et donc, pourquoi? Parce que des nombres pairs sont des nombres divisibles par des moitiés entières. Deux, c'est quoi? C'est deux fois un. D'accord? Et donc, il y a, si vous voulez, une espèce de suffisance qui pourrait se dégager de l'idée même qu'on soit dans un couple, dans une configuration où on est en nombre pair. Donc là, il y aurait deux tribus en dehors d'Israël et 10 tribus en Israël. Alors, c'est une des raisons aussi pour lesquelles la tribu de Yosef a été divisée en deux pour qu'il y ait 13 tribus. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, les nombres impairs sont des nombres qui éveillent le désir de perfection, alors que les nombres pairs éveillent une espèce d'illusion de satisfaction et donc peuvent éteindre le désir de se parfaire. C'est ça qui est caché derrière cette idée que les zougotes, les nombres pairs, amènent le mauvais œil. Et donc, Moshe Rabbeinu va envoyer une demi-tribu qui est celle de Ménaché pour qu'il y ait 2 tribus et demie là-bas et 10 tribus et demie à l'intérieur. Alors, mieux que ça, pourquoi Ménaché? Parce que Ménaché, quand il a été envoyé par Yosef pour mettre la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin au moment où les frères sont venus chez Yosef, et donc pour négocier d'avoir du blé à l'époque de la famine, hein, c'était, on se souvient, c'est à la fin du Sefer Bereshit, et bien à ce moment-là, Ménaché, en venant et en dévoilant aux frères qu'il y avait la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin, va les contraindre à déchirer leurs vêtements. Et le fait même qu'ils aient déchiré leurs vêtements à cause de lui, fait que maintenant cette tribu va être en quelque sorte divisée en deux. Et là encore, on voit cette idée profonde, selon laquelle finalement chacun de nos actes a des conséquences. Alors, quand on parle des tzadikim, des justes, et je termine avec ça, qui ont fondé le peuple juif, les conséquences, elles sont sur l'ensemble des générations. Parce que ce sont les fondateurs du peuple juif, comme les fondations d'un immeuble. Mais pour chacun d'entre nous, c'est à notre échelle la même chose. Nos actes et nos pensées ont des conséquences. Sachons préserver nos actes et nos pensées. Sachons préserver nos yeux. Sachons faire les efforts qu'on vient, notamment dans cette période juillet-août, cette période estivale, qui est une période dans laquelle il faut particulièrement réfléchir sur cette thématique.
Alors non, je n'avais pas entendu cette très belle explication du Harizal. Par contre, j'avais déjà entendu qu'en effet, il faut faire très attention à ce qu'on pense quand on est dans un rapport charnel avec son épouse. J'avais déjà entendu en effet que ça pouvait être créateur de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et j'avais entendu ce que vous dites, les pensées peuvent jouer un rôle qui est avec des conséquences concrètes. J'ai entendu une fois un très bel enseignement dont je ne connais pas le maître qui en est l'auteur. Quand tu dis quelque chose, tu es à l'endroit de ce que tu dis au moment où tu le dis. C'est très beau. Donc, force-toi à dire que des belles choses, parce que par exemple, des fois, on dit des grossièretés, on dit des trucs vulgaires, en tout cas, je parle pour moi, évidemment, je ne parle pas pour le Rav. Moi, des fois, je parle grossièrement, quoi. Je suis grossier, des fois, dans ma vie de tous les jours. Parle pas comme ça, parce que tu vois, tu y penses pas, tu te dis, bon, j'ai juste dit un truc qui est pas correct. Et tu es à l'endroit de ce que tu dis au moment où tu le dis. Je crois que ça
prolonge. Parce qu'en fait, dans la parole, il y a une partie qui est la partie de la pensée. En fait, on dit ce qu'on pense, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Donc effectivement, la pensée, c'est le lieu de l'homme. Ce qu'il pense, ce à quoi il pense, c'est là qu'il est, c'est son monde. Et effectivement, quand ça s'exprime dans la parole, encore plus. Effectivement. Alors, on doit, effectivement, on est avant dans les 3 semaines. Il faut beaucoup réfléchir à ce qui se dit, notamment aujourd'hui. Hein, on parle beaucoup en Israël, on est très exposé à ces batailles publiques, ces batailles politiques et tout, etc. Je crois qu'il est bon, parfois, même si on se tient au courant, de savoir prendre une certaine distance avec tout ça et de se dire qu'au fond, Am Israël, dans les heures de vérité, est un peuple très uni. Et savoir parler bien de son peuple, savoir parler en bien de chaque juif, finalement, je crois que c'est fondamental et ça pourra contribuer à nous amener cette délivrance pour laquelle on prie 3 fois par jour.
Amen, amen. Et c'est vrai, les pensées pendant les rapports intimes, nos maîtres, vous venez nous expliquer, nos maîtres nous disent que c'est important, c'est très important. Rav Mordechai Biton, à Jérusalem, je vous remercie, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et je suis en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir, Rav Gué.
Bonsoir.
Shabbat Shalom.
Et Shabbat Shalom.
Alors, Rav Gué, vous voulez revenir avec nous sur l'idée de ville-refuge. C'est quand même un principe tout à fait particulier. Il faut dire, par exemple, que dans le judaïsme, nulle part, dans le judaïsme, la Torah, nulle part, il y a l'idée de prison. Par contre, il y a cette idée de ville-refuge. Et c'est sur ça que vous voulez nous interpeller et nous inviter à réflexion ce soir, Avgué.
Tout à fait. C'est vrai qu'à la fin de Parashat Massé, il y a donc deux parachires cette semaine, et Matot et Massé, nous terminons le livre de Bamidbar. Eh bien, lorsqu'on arrive à la fin de Parashat Massé, il y a le passage de la ville des villes de refuge. Alors, de quoi s'agit-il? Si quelqu'un est tué par inadvertance, Donc il n'a pas fait exprès, il a fait vraiment, c'est un accident, mais bon, il y a une certaine responsabilité parce qu'il n'a pas, par exemple, pas assez contrôlé, vérifié un outil de travail. Et cet outil s'est abîmé, et en s'abîmant, il a entraîné la mort d'une personne. Je rentre dans les détails, évidemment, c'est complexe. Et donc, dans le cas où il y a une certaine forme de responsabilité, mais il n'y a évidemment que négligence, c'est un homicide involontaire, dans certains cas, on va donc en exil. De quoi s'agit-il ? Il y a très exactement 6 villes de refuge officielles, instaurées pour en partie par Moshe et de l'autre côté du Jourdain par Yehoshua, Binoun, 6 villes en tout. Mais en plus, il y a 42 villes qui sont des villes des Lévi'im. Les Lévi'im n'avaient pas de terrain, mais ils avaient des villes disséminées dans tout Israël, qui sont appelées les villes des Lévi'im, puisque ça leur appartient exclusivement. Mais lorsqu'une personne tue par inadvertance, il peut se réfugier, soit dans les 6 villes de refuge, soit dans les 42 villes, ce qui est donc un total de 48 villes qui permettent de se réfugier. Alors, réfugier de quoi ? Parce qu'il y a une menace de la part du Goel Adam, le vengeur, quelqu'un de la famille de la victime, qui pourrait tuer l'assassin si cet assassin ne se trouve pas dans la ville de refuge. Donc il y a d'abord un tribunal qui va trancher, il va dire, voilà, il doit partir en ville de refuge. Mais à partir du moment où il doit partir dans cette ville et qu'il s'y installe, il n'a absolument pas le droit d'en sortir. Et s'il en sort, il prend des risques, celle d'être tué, un risque, celui d'être tué par un membre de la famille ou n'importe qui est Goel Adam, donc le vengeur du sang, donc sa personne qui va prendre le revanche et le vin de la vengeance de sa famille qui a été victime de cet homme, même s'il l'avait par inadvertance. Et cette règle se couple avec une autre règle, un autre principe, c'est que lorsque le Kohen Gadol, le grand prêtre, meurt, on peut sortir de la ville de refuge. Le Kohen Gadol, à sa mort, permet par sa mort à l'assassin de sortir de cette ville de refuge sans être inquiété par le Goel Adam, par le vengeur, par le membre de la famille de la victime. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que justement, le Kohen Gadol se trouve donc menacé parce que dans ça, je me rends compte que les assassins pouvaient en tout cas prier pour la mort du Kohen Gadol, puisque cette mort allait les libérer de cet exil. Et on nous dit que le Kohen Gadol, donc les mamans des Kohanim d'Olim, apportaient de la nourriture et des gâteries aux assassins par inadvertance pour qu'ils ne prient pas pour la mort de leur enfant, pour la mort prématurée de leur enfant, le Kohen Gadol. C'est intéressant cette centralité de ce Kohen Gadol. Tout d'un coup, quel rapport entre sa mort et la sortie de l'assassin des villes de refuge. Alors, nos sages nous disent qu'en fait, le Kohen Gadol a une mission, une règle, un rôle, celui de prier et d'expier les fautes de son peuple, donc de tous les enfants d'Israël. Et s'il y a eu un accident, il y a une forme de responsabilité, parce que c'est arrivé sous son mandat, et que cet accident n'est jamais venu par hasard, il n'y a pas de hasard chez nous. Et donc, quelque part, c'est un petit peu de sa responsabilité. Donc, c'est pour ça qu'à sa mort, les assassins pouvaient sortir. Et donc, nos chachamim, nos sages, développent un peu ce sujet sur la responsabilité du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, on pourrait l'élargir aujourd'hui peut-être aux tzadikim, aux justes de la génération, ont un rôle d'intercéder, de prier, d'être les protecteurs de leur peuple. Et que dès qu'il y arrive quelque chose, quelque part, ils sont un peu, entre guillemets, un peu responsables. La Gemara nous raconte que Rabbi Yehoshua ben Nevi avait une visite quotidienne d'Eliyahu Hanavi. Mais cette visite s'est interrompue lorsque quelqu'un de la région autour de Rabbi Yehoshua ben Nevi, c'est même pas quelqu'un qui le connaissait, a été dévoré par un lion. Et nos sages nous disent que Rabbi Yehoshua ben Nevi, quelque part, a une forme de responsabilité, parce que si un accident arrive, c'est jamais totalement par hasard, et c'est quelque part un petit peu de sa responsabilité. Donc on voit à quel point le Kohen Gadol, le grand prêtre, et sans doute aujourd'hui il n'y a plus de Kohen Gadol, mais peut-être les grands maîtres, les grands sages, les grands justes, surtout de la génération, ont cette responsabilité de prier, de prier, de prier pour la génération, pour les sauver, pour les aussi les motiver, les remettre en question, les et les interpeller sur la situation. C'est-à-dire, en fait, le peuple juif est construit de la façon suivante. Nous avons comme des cercles concentriques avec au centre les grands maîtres. On nous dit dans la Gemara qu'il n'y a pas moins de 36 justes dans chaque génération. Pas moins de 36. Mais 36, si on réfléchit par rapport aux milliards d'individus, ça ne fait pas grand monde. Mais 36 justes soutiennent l'ensemble du monde. Et je voudrais rappeler à tout le monde que finalement, dans le judaïsme, on ne regarde pas la quantité, mais la qualité. Et une personne de grande qualité peut des fois faire basculer toute l'histoire. Et en particulier, on voit ça avec Pinchas. Dans la paracha de la semaine dernière, on voit un homme qui, par une action, a totalement changé la donne. Le peuple juif était menacé de disparition, de destruction, sans l'acte de Pinchas. Je ne sais pas quelles auraient été les conséquences, mais un homme, un acte, et le peuple juif est sauvé. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour nous rappeler que nous tous, chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité par rapport au peuple juif, et nous devons, par nos actes, alors nous ne sommes pas tous des tzadikim, mais peut-être un acte fort d'un juif, ici et là, de faire basculer la balance. Et justement, nous sommes dans une période d'angoisse depuis des mois, et puis peut-être encore un peu plus depuis ces quelques dernières heures, pour nous rappeler que finalement, Kadosh Baruch Hu, sans son aide, sans son action constante, eh bien, tout simplement, on ne peut pas imaginer, le peuple juif n'a pas d'existence, il n'existe que par l'aide et la présence d'Hachem qui le soutient à tout moment. Donc, sache qu'on parle le peuple juif à un loup, à 70 loups qui entourent un agneau avec, entouré de 70 loups, il n'a aucune chance. Et nous sommes attaqués de toutes parts, menacés de toutes parts, accusés de toutes parts, comme aujourd'hui où on a pu, cette semaine, entendre des responsables tuer des assassins, et on nous appelle, nous, des assassins, parce qu'on tue des gens qui viennent nous tuer, qui préparent des attentats et qui ont réalisé des attentats. Alors que le principe évident et que tout l'Occident a toujours compris, c'est que lorsque Daesh menaçait l'Occident, il n'y avait aucun problème à tuer tous les responsables, à éliminer, etc. Ça, personne ne trouvait ça normal. Mais aujourd'hui, lorsque des ennemis des hommes, hein, des assassins sont reçus avec tous les honneurs dans plusieurs capitales et qu'ils trouvent leur juste mort, parce qu'ils préparent encore la suite de leurs méfaits, on trouve ça injuste, les assassins, c'est les juifs. Ça nous montre à quel point le monde est un monde de mensonges et de duplicité. Donc dans un monde aussi tordu et aussi malsain, on a besoin de multiplier des mérites. Et il ne faut pas croire que ça dépend de tout le peuple juif, mais c'est peut-être de quelques personnes qui peuvent faire basculer le destin. Il y a quelques personnes, par des engagements forts et par des actes forts, qui peuvent des fois faire changer la donne. Et donc je nous appelle à nous tous, et moi le premier, mais nous tous, soyons comme le Kohen Gadol, prions très fort pour le peuple juif, tout entier, multiplions des actions positives et constructives, et croyons fort à ce qu'un acte, ici et là, peut faire vraiment basculer les choses dans le bon sens. Et c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est qu'on va terminer le livre de Bamidbar, ce Shabbat. On va commencer le livre des Varim. On passe des moments où on rappelle la destruction du temple, du Bet Amigdash. On parle de l'exil du peuple juif, c'est à l'origine de l'exil du peuple juif, puisque la destruction du deuxième temple a marqué la fin d'une certaine de la malchoute, de la royauté, de la présence juive en Israël. Puis après, maintenant, nous sommes en train de revenir en Eretz Israël, et il nous manque le principal, c'est-à-dire le Bet Amigdash et David Amelech, un descendant de David, pour nous diriger. Et donc, prions très fort pour que cette chose-là se fasse rapidement, et que nous, par le mérite de différentes personnes, et peut-être chacun d'entre nous, nous puissions faire basculer de l'autre côté la balance, et qu'on ait entendu d'excellentes nouvelles. Shabbat Shalom.
Bien, Shabbat Shalom, Rav Gueh, on l'espère avec vous. Alors, on ne peut pas tous changer la donne. Certains, on a bien entendu, certains le peuvent. Pas nous tous, pas moi. Mais on peut améliorer. Et paraît-il que collectivement, on peut faire quelque chose qui apporte aussi des belles choses. Alors, on va essayer ensemble, en ce Shabbat.
Je voulais vous donner un conseil pratique. Excusez-moi de vous couper la parole. Mais je voulais vous donner un conseil pratique auquel je voulais aussi également donner une petite leçon. C'est que j'ai parlé du nombre et du chiffre du nombre de villes de refuge. Vous avez dit qu'il y en avait 6 officielles, plus 42 villes de Lévi'im, donc 6 plus 42. C'est le nombre de mots qu'il y a dans le premier chapitre du schéma. Les schémas Israël, c'est donc 6 mots, donc schéma Israël, schéma Elokeinu, schéma Echad. Puis après, vous avez 42 mots dans Ve'ahavta, et donc vous avez 42 plus 6. Et quelque part, la ville de refuge, entre guillemets, du juif, c'est quelques mots dans lesquels le juif se réfugie pour marquer sa confiance en Hachem. Et lorsqu'on est dans un signe très clair de confiance en Hachem, eh bien Kadosh Baruch Hu nous accueille et nous protège. Et donc la lecture du schéma avec plus d'attention et plus de concentration pourrait éventuellement être aussi un moyen de faire basculer la balance à notre avantage.
La première phrase.
La première phrase et les 42 mots qui suivent dans Ve'ahavta, c'est-à-dire le premier chapitre du schéma, avec les 6 premiers mots et les 42 mots qui suivent.
Allez.
Sont des villes de refuge pour chaque juif, pour se réfugier devant des assassins qui nous entourent.
Allez. On a appris aussi des choses qui donnent l'impression que ça peut aussi dans le bon sens cette semaine. Rav Guy, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Et vous retrouvez un journal complet à 18h qui vous est présenté par Jérémy Chichportich.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.